Pierre Philippe, 10 février 1984, Saint-Joseph.
Je me souviens, quand nous entrions dans l'histoire d'Isaac, le professeur d'exégèse de l'Ancien Testament que j'avais, était un dominicain, un archéologue de premier ordre, disait toujours ceci: c'est pas commode la situation d'Isaac, d'avoir un père tel qu'Abraham et d'avoir un fils tel que Jacob. Alors il est coincé par les deux bouts. On voit très bien ce qu'il voulait dire, hein. C'est que c'est vrai, être le fils d'Abraham, fils et petit-fils, hein, et d'avoir comme mère Sarah, c'est pas non plus commode. Alors on est à l'ombre, on sait très bien que ordinairement ça saute une génération. Alors on voit très bien que c'est Jacob qui va reprendre, hein, la splendeur d'Abraham. Isaac, il est coincé. C'est juste humainement parlant de dire ça, il y a quelque chose de juste. Alors, je crois qu'il faut essayer de dépasser ce point de vue psychologique et sociologique et essayer de comprendre que, de fait, à travers Abraham, à travers Isaac, à travers Jacob, Dieu nous parle. Et il prend trois situations différentes qui sont liées les unes aux autres. Il y a le lien de la chair et du sang. Vous savez, ça joue un très grand rôle dans l'Ancien Testament. Et ça joue un très grand rôle dans l'Ancien Testament pour nous montrer comment Jésus nous libère de ce lien. Sans le supprimer. Mais Jésus nous libère de ce lien. Nous met au-dessus. Et que les liens surnaturels, divins, vont beaucoup plus loin que le lien selon la chair et le sang. Tandis que dans l'Ancien Testament, c'est difficile de dire que ça va beaucoup plus loin. Ordinairement, les liens de la chair et du sang sont bien le fondement, mais un fondement qui est très lourd à transformer. La pâte humaine est beaucoup plus lourde dans l'Ancien Testament que dans le Nouveau Testament. Et je crois qu'il faut essayer de comprendre cela. Ça fait partie justement de ce mystère de l'Ancien Testament qui nous est montré, qui nous est manifesté, comment Dieu prépare, il dispose tout par l'Ancien Testament. Alors, c'est sûr, nous allons retrouver, et les exégètes soulignent ça, c'est facile à comprendre, que quand vous regardez l'histoire d'Abraham d'un côté, l'histoire d'Isaac, et l'histoire de Jacob, il n'y a pas grand-chose d'original pour Isaac. Ni le fils coincé. Un père aussi vénérable, un fils aussi prodigieux. Parce que Jacob, c'est quand même quelqu'un. Hein, c'est quelque chose d'assez extraordinaire, Jacob. Et Abraham, c'est une grandeur, Abraham, le père de la foi. Isaac, la petite espérance, hein. Faut pas l'oublier, la petite espérance, la petite sœur espérance qui est toujours un peu coincée dans l'Ancien Testament. Et alors elle garde un vieux reste du coinçage dans la Nouvelle Alliance, c'est ça. Et elle a encore de la peine d'avoir des ailes puis de pouvoir aller très très loin. Alors on retrouve des épisodes quand on les prend matériellement. Vous voyez, le père Hostie souligne, c'est du reste, il n'y a rien d'original là-dedans, c'est des choses que tout le monde peut dire et que tout le monde peut voir. Alors, sauf les versets, c'est à propos du chapitre 26 que nous allons tout de suite voir, sauf les versets 34 et 35, qui sont le document sacerdotal, le texte appartient au document yaviste. Je vous ai déjà dit, si vous avez le temps de faire ce petit partage des eaux, c'est très intéressant à faire, couleur rouge, couleur bleue. Hein, mettez, je ne sais pas, ce que vous aimez mieux, yaviste de couleur rouge et sacerdotal de couleur bleue. Alors vous avez les deux perspectives, les deux documents qui chevauchent, les deux souterrains, les deux sources. C'est sûr, il y a deux sources. Le Saint-Esprit les a mêlés, les a liés, les a unis. Et nous avons le texte gardé par l'Église qui est comme ça. Alors, Pourquoi le Saint-Esprit a-t-il fait ça? Pour donner du travail aux exégètes. On peut dire ça, ça c'est la première raison. C'est suffisant, du reste, pour le Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit, c'est un artiste de premier ordre. Il peut faire ça, après tout. Je serai à la place du Saint-Esprit, je verrai les hommes s'amuser. On va leur donner du boulot. Hein. On va lier deux traditions comme ça. Hey. Ils pourront trouver, il y a un petit geste, c'est comme des scouts qui retrouvent les pistes. Quoi. Alors, il y a deux pistes différentes, il y a deux boulots à retrouver comme ça, et retrouver les pistes. C'est très intéressant. Oui, oui. Le Saint-Esprit joue. Il peut y avoir d'autres raisons. Il peut y avoir d'autres raisons beaucoup plus sérieuses. Du côté de la finalité. Alors, quand Dieu fait des choses comme ça, c'est comme un artiste, vous savez. Picasso, qui n'est pas l'artiste du Saint-Esprit, mais qui est quand même un artiste, Picasso. Il aime de faire des choses qui sont quelquefois très semblables. Et puis, il y a quelque chose de différent. Il y a une mise en lumière de certains aspects quand l'aspect matériel est commun. Et là, il y a une mise en lumière d'un aspect particulier, qui est beaucoup mieux mise en lumière artistiquement si, de fait, les éléments, la matière, sont communs. Alors, je crois que c'est ça qu'on doit regarder. Parce que le Saint-Esprit aurait pu inventer d'autres choses, vous comprenez l'histoire d'Isaac, c'est bien évident qu'il est coincé pour petit Isaac, mais il y a quand même une alliance directe avec Dieu. Dieu l'a regardé quand même pour lui-même, Isaac. Il l'a aimé pour lui-même. Et nous devons regarder Isaac pour lui-même. C'est ce que nous allons faire. On va le regarder pour lui-même. Donc il aurait pu très bien, parce que la vie d'Isaac n'a pas été calquée sur celle d'Abraham. J'en suis sûr que non. Quand on verra dans la vision béatifique tout ce qu'Isaac a fait, tout ce qu'Abraham a fait, on dira, mais c'est quand même très différent. Pourquoi on ne nous a pas dit ça? Le Saint-Esprit fait quelque chose de différent. Alors, s'il fait ça, c'est sans doute pour que nous comprenions mieux, à l'intérieur de cette répétition, quelque chose de tout à fait différent. Alors, il y a les trois paternités. Donc, on voit très bien, les trois paternités, c'est une manière merveilleuse de nous faire entrer dans une préfiguration de la très sainte Trinité. Le Père est trois fois Père dans l'Ancien Testament. Vous voyez bien la paternité d'Abraham, la paternité d'Isaac, la paternité de Jacob. Il faut bien trois pour exprimer la paternité. Et Joseph, un seul. Parce que Joseph est le père des patriarches. Il est le patriarche par excellence. Alors, il y a ça au point de vue théologie biblique, au point de vue théologie spirituel, si vous voulez. Sûrement qu'on doit découvrir à travers Abraham, à travers Isaac, à travers Jacob, trois modalités de la paternité qui, toutes trois, nous font entrer dans l'unique paternité qui, toutes trois, nous apprennent la paternité de Joseph. Ce serait beau, vous voyez, de faire un livre sur Saint Joseph avec les trois paternités. Hein, tous ceux qui aiment Joseph, hein. Ils n'ont qu'à faire ça dans l'Ancien Testament, qu'ils essaient de découvrir tout ce qui annonce la paternité de Joseph. C'est très grand, c'est très beau. On verra que Isaac, plus exactement Jacob, en face de son fils Joseph, va garder le silence. Alors, le texte de Saint Jérôme est très beau. Hein? Pater Tatchebat. Et Bossuet l'a repris avec force pour Saint Joseph. Et les pères de l'Église avaient pris avant lui. Le père, c'est le silence. Le père se tait. Et c'est vrai, c'est un petit indice de ce que je vous dis pour vous montrer que ce que je vous dis est enraciné dans toute une tradition dans l'Église. Et on a à le mettre en valeur parce que je crois que c'est comme ça que nous devons lire, on peut laisser les exégètes trouver les documents yavistes et éloïstes. C'est intéressant, c'est bien évident, il ne faut pas le bouder. Cause matérielle. La cause matérielle, on ne la boude pas. On ne boude pas la biologie, on ne boude pas la psychologie, on ne doit pas la bouder. Cause matérielle. Mais n'apprenons pas pour la cause finale. Ne faisons pas de l'exégèse pour découvrir uniquement les divers documents. Non. C'est pour autre chose qu'on fait de l'exégèse, pour entrer plus avant dans la finalité de la pensée de Dieu. Et alors, je crois que la finalité, ce sont les trois pères. Ce sont les trois pères qui sont liés les uns aux autres, une triple paternité. Il y a bien une triple paternité, vous savez, en Dieu. Il y a la paternité du Père, il y a la paternité du Fils, il y a la paternité de l'Esprit Saint. Ça existe. Je suis lié au Père comme Fils, je suis lié au Fils bien-aimé, comme Fils. Je suis lié au Saint-Esprit comme Fils. Il y a une triple filiation, il y a une triple paternité. Alors, pour mieux la comprendre, on comprend très bien que le Saint-Esprit a fait un croquis merveilleux. La manière dont le Saint-Esprit se sert d'Abraham, d'Isaac et de Jacob pour nous aider à comprendre qu'est-ce que c'est que la paternité. Et un aspect qui est très très beau pour nous faire entrer dans cette paternité du Père, dans cette paternité du Fils. Le Fils est Père à la croix. Et l'Esprit Saint, il est Père parce qu'il est source de toute fécondité. Alors il est Père. C'est une paternité qui est beaucoup plus diffuse, j'allais dire, hein, la paternité de l'Esprit Saint. C'est que la paternité du Père, elle est cachée. La paternité du Fils, elle est donnée selon le mode sacerdotal. C'est une paternité sacerdotale. Et la paternité de l'Esprit Saint, c'est une paternité très particulière dans l'immanence de la fécondité. Mais la transcendance de la paternité du Père, elle est invisible. Alors vous avez trois grands aspects de la paternité de la très sainte Trinité. Hein. Il ne faut pas l'oublier. Et c'est pour ça qu'il y a ces trois pères qui sont là donnés de cette manière-là, pour nous faire entrer la manière dont Dieu sanctifie le cœur du Père. Alors vous voyez, il y a tout ça à découvrir progressivement, que je crois très important. Quand vous regardez l'image de Dieu telle que l'homme a été fait, vous avez le dominion, l'intelligence et l'amour. Nous sommes créés à l'image de Dieu par le dominion, l'intelligence et l'amour. Saint Augustin dira la mémoire. J'aime mieux corriger l'Augustin, le néoplatonisme de saint Augustin en revenant au texte et dire dominio. L'homme est créé à l'image de Dieu, participant au dominium de Dieu, participant à son intelligence, participant à son amour. Qu'a fait le péché? Le péché a brisé l'amour. Le péché a laissé intacte l'intelligence, et l'intelligence, à la place d'être ordonnée à l'amour, est ordonné au pouvoir. Ça, c'est net. Les 11 premiers chapitres de la Genèse montrent ce double chêne, la brisure. Avec Abraham, qu'est-ce qu'on voit? On voit la manière dont Dieu reprend l'image. Vous voyez bien, au début de la Genèse, hein, les deux premiers chapitres de la Genèse, 1 et 2 montrent l'image de Dieu. Du chapitre 3 au chapitre 11, on montre comment le péché supprime l'amour et met l'intelligence au service du dominium à la place que l'intelligence devrait être au service de l'amour. Donc on montre le désordre. Du chapitre 3 à 11, c'est le désordre. Tout est créé avec un ordre. 1 et 2, ordre, mesure et point. Ça, c'est l'interprétation de l'Écriture elle-même. Toute œuvre de Dieu implique ordre, mesure et poids. Ce que saint Augustin a beaucoup aimé. bien, ça, c'est découvrir l'imago Dei, ordre, mesure et poids. Pondus. Toute œuvre de Dieu implique les trois, toujours. Et dans l'imago Dei, on retrouve bien les trois, c'est sûr. Donc il y a une harmonie profonde dans toutes les œuvres de Dieu. Et vous retrouvez toujours cela. Que fait le péché? Il supprime le poids. D'où vient léger, hein, dans le sens où ça n'a plus de sens, ça n'a plus d'orientation, c'est superficiel. Le péché rend tout superficiel, tout vain, vanum. S'il n'y a plus ordre, mesure et poids, tout est vain. Le désordre, c'est toujours vain. Vous savez ce que dit Aristote à propos de vanum? Il n'a pas lu l'Ecclésiaste, mais il dit une chose très très jolie sur le vanum. Qu'est-ce que c'est que d'être vanum, vain? C'est celui qui a perdu sa finalité. Quand vous avez perdu votre finalité, vous êtes vain. C'est-à-dire, vous êtes vide. Une baudruche dégonflée. Hein, c'est ça. Il n'y a plus de finalité. Alors, on est vain. Alors, c'est l'amour qui est supprimé, et donc l'intelligence demeure intacte, mais est ordonnée vers le dominium. Qu'est-ce que nous voyons avec le chapitre 12 jusqu'à la fin? La manière dont Dieu commence de reprendre l'image de Dieu. L'image de Dieu dans Abraham. L'image de Dieu dans Isaac. L'image de Dieu dans Jacob. Et je mettrai à la suite de Jacob le Ben-Joseph et le Benjamin. C'est pour avoir les cinq. Hein. Vous savez que c'est important d'avoir les cinq qui sont bénis de Dieu. La bénédiction de Dieu repose sur Abraham, Isaac, Jacob, elle repose sur Joseph, elle repose sur le Benjamin. Je ponctue, hein, tout simplement. J'essaie de saisir les arêtes. Je vois comment Dieu va reprendre son image qui est perdue, qui est vaine. Qu'est-ce qu'il fait? Le cœur du Père. C'est le cœur du Père qui le reprend. Et avant tout, c'est le cœur du Père. Lui redonner la capacité d'aimer. C'est très beau de voir. Et ça, je crois que c'est très important au point de vue proprement apostolique. Parce que Dieu nous donne une pédagogie quand même. Aujourd'hui, on cherche des pédagogies. Mais Dieu nous en donne une. Mais écoutons d'abord celle de Dieu avant d'écouter les autres. Il faut d'abord écouter celle de Dieu. Il y a une pédagogie divine dans tout l'Ancien Testament et dans le Nouveau. Il y a une pédagogie admirable. Comment Dieu va-t-il reprendre l'image de Dieu abîmée dans l'homme? C'est tout notre problème au point de vue apostolique. Comment devons-nous reprendre l'image de Dieu dans les hommes qui agonisent, qui ne savent plus sans image de Dieu? Comment Dieu s'opère? Quelle est la première chose que Dieu fait? Bon, il réveille dans le cœur de l'homme sa capacité d'aimer. Et dans la capacité d'aimer, quelle est la première capacité d'aimer? C'est la paternité. C'est ce qu'il y a de plus fondamental dans le cœur de l'homme. C'est pour ça que je dis, c'est le cœur du Père. Dans Abraham, c'est bien ça. Isaac, il est fils et père. Abraham, il n'est que père. On ne sait pas du tout quel est le père d'Abraham. On le sait, mais on ne sait rien de lui. Hein. Le père d'Abraham, perdu dans l'âme. Parce que ce n'est pas du tout ce qui nous est montré dans Abraham. Abraham n'est pas du tout rééduqué dans son sens filial. Abraham a ce privilège particulier d'être père, sans génération avant lui, comme le père inassible. Et c'est vrai, ça c'est vrai, on doit le comprendre. Abraham, c'est vraiment ça. Il est tiré à 75 ans. À 75 ans, il n'a plus besoin d'être tourné vers son père et vers sa mère. Hein. Mais il a quand même 75 ans. Et c'est pour ça qu'il est pris à 75 ans. Pour qu'on comprenne bien qu'il est source. Alors il n'est plus tourné vers les autres. Il est tourné uniquement vers son fils, comme un père, comme un vrai père. Il y a un regard vers Sarah. Et leur guerre Marsara, hein, ils louchent de temps en temps. Ça, c'est ça, ça, on le voit bien. Alors, un quart vers Sarah, et on regarde avant tout vers le fils Ismaël, Isaac, les deux. Ismaël, Isaac, ils tournaient vers les pères et grands-pères. Alors, la première chose que Dieu rééduque, c'est ça qui est très beau. Et je crois que c'est très important au point de vue apostolique. Moi, je m'en suis servi souvent. Quand vous voyez quelqu'un qui est marxisé jusqu'au bout, quelqu'un qui est dans le positivisme jusqu'au bout, parlez-lui de son enfant. Réveillez en lui le cœur du Père. Parce qu'au point de vue discussion, vous pouvez discuter 107 ans, il aura toujours raison, parce qu'un idéologue n'avoue jamais d'avoir tort. Donc ce n'est pas la peine. Vous perdez votre temps. Ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas connaître l'idéologie, on devra la connaître après. Mais vous perdez votre temps. Qu'est-ce que vous devez faire ? Réveiller son cœur de père. Et quand vous réveillez son cœur de père, quand vous pouvez, quand il est père, vous retrouvez quelque chose à l'image de Dieu. Oui, parce qu'il y a l'amour. Et l'amour le plus immédiatement éducable, ça c'est la Bible. Il faudra chercher les raisons théologiques. Pourquoi c'est cet amour-là qui est le plus immédiatement éducable ? Mais c'est ce que je vois. Je constate que Dieu fait ça dans Abraham, dans Isaac. C'est plus tout à fait ça. C'est encore ça. Mais c'est plus tout à fait ça. Il y a autre chose. Il faudra le découvrir. Parce que Isaac est quand même fils. Et il est très fils de ça. Une empreinte sur Isaac, hein. C'est très net, ça, on l'a bien vu. Et c'est bon cet amour d'Isaac pour Sarah. C'est quand même Dieu qui l'a voulu. Et puis il y a l'amour d'Isaac pour son père Abraham. Et puis il y a l'amour d'Isaac pour Rebecca. Et puis il y a l'amour d'Isaac pour ses fils. Vous voyez, c'est beaucoup plus complexe. C'est même pas cette espèce de simplicité extraordinaire d'Abraham. C'est ça qui est quelque chose de si grand dans Abraham, parce que Dieu rééduque en lui l'amour du Père. Dieu rééduque en Isaac aussi l'amour du Père, et dans Jacob aussi. C'est la première chose que Dieu rééduque. C'est ça qui me frappe. C'est l'amour. L'amour paternel. Première chose que Dieu rééduque. Voilà ce que je crois être, au point de vue théologique, l'important, oui, c'est très simple comme petit schéma de la Bible. C'est très simple au point de vue théologique. La manière dont Dieu reprend l'image. Et la manière dont Dieu, à travers le Père, Abraham, Isaac et Jacob, va redonner au Père le sens de l'amour. Alors, je reviens à la petite note du Père Hostie. C'est intéressant à voir quand même. Bon, sauf les versets 34 et 35. Alors si vous avez un crayon rouge ou un crayon bleu, vous notez, n'est-ce pas? Parce que c'est intéressant de bien mettre tous les documents yavistes. Faites-le, ça vaut la peine. Vous verrez, ça met en lumière certaines choses. Adapté au contexte par les rédacteurs. Bon, très bien. Trois épisodes rapportés à propos d'Isaac apparaissent comme la réplique de récits de la vie d'Abraham. Il n'y a rien de plus grand pour un fils d'imiter son père. Il y a trois épisodes d'Abraham qu'on voit. Isaac, on ne sait pas quoi dire, le pauvre petit, hein, il est timide. Hein, et là, il a été mis sur le bûcher, il en a fait un traumatisme puissant. Il y a eu le couteau du père au-dessus, ça reste toute sa vie. Hein, c'est impossible autrement, le petit Isaac. Là. Il a attrapé une espèce de frousse. Hein. Alors que voulez-vous, comment on peut faire quelque chose de grand pour lui? C'est de lui plaquer quelques petites choses du père. Alors qu'est-ce qu'on va plaquer du père? On va voir les récits. Trois épisodes rapportés à propos d'Isaac appartiennent comme la réplique de récits à la vie d'Abraham, dont ils constituent des doublets. Alors, on dit comparer, c'est facile à voir. Premièrement, la grande famine. Deuxièmement, ne descend pas en Égypte. Parce que l'Égypte, c'est toujours dangereux. Hein. Troisièmement, la résider en terre étrangère, il est un. Voilà, trois points communs. Je veux bien. C'est vrai, c'est très vrai ce qui est dit. Cause matérielle. C'est la cause matérielle, ça. Je ne peux pas nier que c'est la cause matérielle. Si je suis un tout petit peu habitué à regarder les textes dans leurs choses, je vois bien, c'est une réplique, comme on dit. Je vous ai déjà dit que Saint-Esprit n'aimait pas les répétitions. Je me trompe, vous voyez, là, il aime les répétitions dans la Genèse. Alors, pourquoi ces répliques? On ne donnera pas nécessairement de réponse, mais il faut la poser. Parce que je ne peux pas me contenter uniquement de dire c'est des répliques. C'est très bien, c'est très vrai, ce sont des répliques. Mais il y a une raison, puisque le texte m'est donné comme ça. Il y a des raisons pour ça. Alors, j'ai donné une raison déjà, que je crois très importante. C'est pour mieux mettre en relief ce qu'il y a de tout à fait propre à la purification du cœur du Père en Isaac. Je crois que c'est cette lumière-là qu'il faut prendre. Ça, c'est la lumière que donne l'Esprit Saint pour comprendre la parole de Dieu. La finalité. Dieu rééduque le cœur du Père. Alors, il rééduque le cœur d'Abraham fondamentalement. C'est pour ça que fondamentalement, Abraham, c'est un père et un grand-père. Il est doublement père. Ça, c'est sûr. Et que on ne voit pas beaucoup de grandes déclarations d'amour d'Abraham pour Sarah. Vous prenez un sermon pour le mariage, ne prenez pas trop Abraham et Sarah. Non, c'est pas très très éloquent, n'est-ce pas? Oui, je pourrais parler des jalousies de Sarah très très bien, n'est-ce pas? Mais au fond, autrement, on ne voit pas beaucoup d'amour. Il y a un certain respect, il la supporte. C'est déjà quelque chose. Il la supporte, et c'est pas commode à voir. Tandis que lorsqu'il s'agit d'Isaac, c'est différent. C'est pas du tout la même chose. C'est beaucoup plus complexe. Donc il faut chercher la qualité particulière du Père que Dieu rééduque dans le cœur d'Isaac. Et je crois que ces répliques sont faites pour que nous comprenions mieux ça. Puis, il y a peut-être d'autres raisons qu'on regardera en route. Ceci, c'est pour que nous puissions lire le texte avec quelques interrogations. Parce que si vous lisez ce texte sans interrogation, vous lisez, c'est intéressant, c'est magnifique. C'est très beau ce récit de la Genèse. C'est un des livres qu'on doit aimer le mieux. L'évangile de Saint Jean et la Genèse. C'est les livres qu'on doit aimer par-dessus tout, par-dessus le marché de l'Apocalypse. N'est-ce pas? Mais au fond, ce sont des livres qu'on doit aimer beaucoup. Parce que c'est la famille. La Genèse, c'est la famille. C'est Dieu qui reprend le Père. Voici l'histoire d'Isaac. Donc, on recommence tout. C'est ça qui est très curieux. Vous voyez avant, c'est la mort d'Abraham. Voici l'histoire d'Isaac, fils d'Abraham. Abraham engendra Isaac. Isaac était âgé de 40 ans lorsqu'il prit pour femme Rebecca. C'est très vite, c'est très vite cette histoire d'Isaac. On ne dit pas grand-chose. Parce que tout avant était intéressant par rapport à Abraham. Tout ce qui était dit avant sur Isaac, c'est pour nous faire comprendre Abraham. C'est pour ça qu'il y a la reprise ici. C'est très intéressant ça. C'est le Saint-Esprit qui dit, attention, on n'a pas déjà parlé. On a parlé d'Isaac, c'est très très vrai, mais c'était pour comprendre Abraham. C'était pour comprendre la paternité d'Abraham. C'est pour ça qu'il s'est repris comme ça. Isaac était âgé de 40 ans lorsqu'il prit pour femme Rebecca, fille de Bethuel, l'arméen de Pandan Aram et sœur de l'araméen Laban. Isaac implora Yahvé au sujet de sa femme, car elle était stérile. C'est encore trop. Il n'y a aucun lien avec Sarah. On trouve le lien commun, la stérilité. C'est curieux. Ça, il l'a oublié. C'est un lien pourtant bien important, la stérilité. Elle était stérile. Alors, on invoque Yahvé. Isaac invoqua, implora Yahvé au sujet de sa femme, car elle était stérile. Yahvé l'exauça et sa femme Rebecca conçut. Alors vous voyez, c'est tout à fait différent. Vous voyez là tout à fait aussi la différence. Quand il s'agissait d'Abraham et de Sarah, on nous a rappelé les mœurs du temps. Ici, il y a déjà un dépassement. Oui, on voit que la foi a déjà fait quelque chose, un progrès plus grand. C'est net. Comme, donc, Rebecca conçut, comme les filles s'entrechoquaient dans son sein, elle dit, s'il en est ainsi, pourquoi donc vivre ? Donc elle a de l'angoisse, l'angoisse terrible de porter deux fils qui déjà dans le sein maternel se battent. Ça fait partie de la psychanalyse, de voir exactement pour qu'ils se battent déjà dans le sein maternel. C'est affolant, hein. Ce combat dans ce lac maternel, Jésus se battait là, ils ne pouvaient pas vivre ensemble. La demeure était trop petite, hein, pour eux. S'il en est ainsi, pourquoi donc vivre ? Mais c'est la pauvre mère qui en reçoit toutes les conséquences. Et elle alla consulter Yahvé. On ne dit pas comment. Elle alla consulter Yahvé, sans en parler à Isaac. Hein. C'est aussi très curieux, c'est aussi très intéressant ça. Yahvé lui dit, il y a deux nations dans ton sein, deux peuples issus de tes entrailles. Deux peuples se sépareront. Un peuple sera... Deux peuples se sépareront. Un peuple sera plus fort que l'autre. Et l'aîné servira le cadet. La division dans le sein maternel, première division dans le sein maternel, annoncée prophétiquement. Vous voyez le glaive, hein, dans le sein maternel. C'est terrible, hein, les deux qui se disputent. Et les deux qui se disputent, qui annoncent déjà quelque chose au point de vue prophétique. Quand furent accomplis les jours où elle devait enfanter, voilà qu'il y avait des jumeaux dans son sein. Aujourd'hui, on n'a plus besoin de consulter les prophètes et de prier, parce que les médecins le disent, on voit très bien, la biologie a fait du progrès, n'est-ce pas ? Alors on le sait. Mais là, on consultait Yahvé, c'est Yahvé qui annonçait. Et c'est pour ça qu'on annonce, voyez, c'est ça qui est très beau. Quand furent accomplis les jours où elle devait enfanter, voilà qu'il y avait des jumeaux. On l'a déjà dit, mais prophétiquement. Tandis que là, on le dit réellement. Voyez, on voit très bien les deux aspects. Le premier sortit, il était roux. Tout entier comme un manteau de poil. On l'appela du nom Ésaü. C'est merveilleux, ce petit poil qui sort. Après cela, c'est pour ça qu'il se battait, parce qu'il ne se reconnaissait pas. Vous voyez, il était comme le petit corbeau dans le nid. Il était comme ça. Après cela, sortit son frère et sa main tenait le talon d'Ésaü. On l'appela du nom de Jacob. Isaac était âgé de 60 ans à leur naissance. Les garçons grandirent. Ésaü fut un habile chasseur, un homme des champs. Jacob était un homme paisible, habitant sous les tentes. Isaac aima Ésaü, car le gibier était de son goût. Et Rebecca aimait Jacob. Alors là, tout de suite. Voyez, très important de saisir ça. De saisir immédiatement non seulement le partage matériel des deux et le combat qui existe, et comment nécessairement, quand il y en a deux, il faut qu'il y en ait un premier qui sorte du sein maternel, et l'autre tenait le talon. Pour qu'on ne l'oublie pas. Sans doute, pour être sûr et qu'il vienne quand même. Et puis, il venait après. Alors, qu'est-ce qu'il y a ? La mère. L'amour de la mère. Et ce qui est très très beau ici, hein, c'est que l'amour de la mère devient le miroir de la sagesse de Dieu. Vous voyez, comme ça annonce Marie. C'est juste l'inverse, hein, de ce psychanalyste qui veut détruire les liens de la mère avec leurs enfants. C'est juste l'inverse. Ici, l'amour de la mère prévoit tout l'amour de Dieu, l'amour de prédilection de Dieu pour Jacob. Et cet amour de prédilection est déjà dans le cœur de la mère, tellement le cœur de la mère est le miroir de la sagesse de Dieu. Alors c'est beau ça, voyez, parce que on ne pouvait pas dire ça pour Sarah. On ne pouvait pas dire que le cœur de Sarah était le miroir de la sagesse de Dieu. Crois pas. Tandis que je peux le dire ici pour Rebecca. Alors vous voyez tout de suite la chose qui s'ajoute. On cherchait qu'est-ce qui s'ajoute. Ah, ici c'est le cœur de la mère. Il y a le cœur du père et le cœur de la mère. Et le cœur de la mère, donc, dans Rebecca, exprime comment Dieu reprend le cœur de la mère. Après la purification du cœur du père, il y a le cœur de la mère. On comprend. Parce que l'humanité, créée à l'image de Dieu, l'humanité, c'est à la fois le père et la mère. Et donc si le cœur du père est repris en Abraham, le cœur de la mère, immédiatement après. Mais comment on saisit cette chose qui est quand même très très forte et qui est très belle, hein, cette purification du cœur de Sarah. Bon, Jacob était un homme paisible, oui. Habitant sous la tente, Isaac aima Ésaü, car le gibier était de son goût, mais Rebecca aima Jacob. La purification du cœur d'Isaac est assez grossière. Aimer Ésaü à cause du gibier, n'est-ce pas, c'est l'efficacité. Il faut que le cœur d'Isaac n'est pas encore tout à fait purifié. Hein. On a vu comment l'efficacité dans le cœur d'Abraham faisait commettre quelques petits mensonges. L'efficacité, une efficacité à l'égard de Sarah. Ici, on retrouve la même chose. C'est intéressant de voir comment c'est difficile de purifier l'efficacité. Ça ne se fait pas tout de suite. L'efficacité, c'est le dominion. Et au fond, on voit très bien que l'efficacité n'est pas purifiée. Et là, l'efficacité dans le cœur d'Isaac n'est pas encore purifiée. Comme Jacob faisait bouillir un bouillon, Ésaü rentra des champs épuisés. Ésaü dit à Jacob, « Laisse-moi avaler de ce roux-là, car je suis épuisé. » Voilà pourquoi on l'a appelé du nom Édom. Jacob dit, « Vends-moi tout de suite le droit d'aînesse. » Alors, on veut montrer, voyez, la grandeur de l'amour de Rebecca pour Jacob. Ce que je vous dis, il faut bien montrer comment dans le cœur de la mère il y a le reflet de la sagesse de Dieu. Elle préfère Jacob, et sa préférence pour Jacob est une préférence qui rejoint quelque chose de très profond. Pourquoi? Ésaü, c'est l'efficacité. C'est l'efficacité, et on nous montre bien, il est capable de vendre son droit d'aînesse. Pour le roux. Parce qu'il est roux. C'est, on joue là-dessus, c'est évident. Hein, c'est, on joue sur ce point de vue-là. Et alors on montre là, parce que ça, c'est ce petit passage est très important pour montrer comment la mère qui aime davantage Jacob est du goût de Dieu. Et le goût de Joseph qui aime bien Marie. Il a un goût divin, Joseph. Rebecca, elle a un goût divin. Elle aime Jacob. Elle a pressenti que Jacob, c'était celui qui avait la noblesse d'amour. Ce n'était pas Ésaü. Il est premier dans l'ordre premier, un droit d'aînesse, mais ça ne vaut rien du tout. Parce que dès qu'il est affamé, son concupiscible est un peu trop fort. Hein. C'est ça, ça lui va avec son point de vue de il est vigoureux. Vends-moi tout de suite ton droit d'aînesse. Alors voyez, voilà pourquoi on l'appela Édom. Jacob dit, vends-moi tout de suite ton droit d'aînesse. Ésaü dit, voici que je vais mourir, que m'importe le droit d'aînesse. Jacob dit, jure-le-moi tout de suite. Il le lui jura et vendra son droit d'aînesse à Jacob. Alors Jacob donna à Ésaü du pain, du bouillon de lentilles, il mangea, il but, se leva et partit. Voilà l'efficacité, c'est tout à fait. Hein. Le concupiscible étant complètement rassasié, bon, il mangea, il but, se leva et partit. La définition d'Ésaü, hein, c'est assez rapide. C'est ainsi qu'Ésaü méprisa le droit d'aînesse. Méprisa le droit d'aînesse. Hein. Pour montrer que dans Ésaü, il n'y a pas de noblesse de cœur. Et que la mère a bien choisi. Elle a eu bon goût. Très important, ça. C'est le don de sagesse, vous savez, d'avoir bon goût. C'est le don de sagesse qui nous permet de goûter les choses comme Dieu les goûte. Et quand on a mauvais goût, alors on ne les goûte pas comme Dieu les goûte. Et donc on est de la terre, on est terrestre. Eh bien, Ésaü est terrestre. Ça donne de la terre. Et Isaac n'avait pas senti ça. Il y eut une famine dans le pays. Vous voyez, il y a déjà des ressemblances, hein, et en même temps une très grosse différence. Alors la très grosse différence, c'est net. Tout l'accent est mis sur le cœur de la sacrifice. Et ça, c'est intéressant du point de vue idéologique. Alors maintenant, nous allons retrouver encore un parallélisme. Il y eut une famine dans le pays, outre la première famine qui avait eu lieu au jour d'Abraham. Alors on a soin d'ajouter ça pour bien montrer que ce n'est pas une répétition. Les famines, on comprend du reste, les famines ça peut arriver, et dans ce temps-là ça arrivait assez souvent. Et Isaac se rendit à Guérar, chez Abimelech, roi des Philistins. On sait très bien que c'est Abimelech, c'est un grand ami, hein, grand ami ce roi des Philistins. Les Philistins deviendront des ennemis après, mais au point de départ ils sont alliés. Et l'alliance avec Abraham s'est faite avec Abimelech, il ne faut pas l'oublier. Hein. Yahvé lui apparut et dit, ne descends pas en Égypte, demeure dans le pays. Je te le dirai, que je te dirai. Réside dans ce pays. Je serai avec toi et je te bénirai. Car c'est à toi et à ta descendance que je donnerai tous ces pays. Et je tiendrai le serment que j'ai fait à Abraham, ton père. Donc, voyez, c'est à ce moment-là où Isaac devient pour Dieu un homme nouveau. Dieu s'adresse directement à Isaac et lui demande un acte d'obéissance. Et c'est la différence avec Abraham. Avec Abraham, la gratuité est montrée de façon beaucoup plus. Ici est montré que Dieu réclame un acte. Il a bien demandé à Abraham un acte d'obéissance à sa vocation. Mais ici, l'acte d'obéissance, c'est de demeurer. La stabilité. Je multiplierai ta descendance comme les étoiles du ciel. Je donnerai à ta descendance tous ces pays-là. Et par ta descendance se béniront toutes les nations de la terre. En retour de ce qu'Abraham a obéi à ma voix et qu'il a observé mon observance, mes commandements, mes ordonnances et mes lois. Donc, nous retrouvons la même alliance. Grâce à l'obéissance d'Abraham, Dieu réclame une nouvelle obéissance à Isaac. Alors, il faut essayer de saisir cette nouvelle modalité particulière de cette alliance. C'est la même alliance au point de vue du contenu, mais elle a un mode différent. Isaac habita donc à Gérar. Lorsque les gens du lieu l'interrogeaient sur sa femme, il disait « c'est ma sœur ». C'est curieux que les mensonges, ça se transmet de père en fils. C'est très net. Ça. Des petites astuces, on a bien vu. Il est très sensible à l'efficacité. Alors, un régime politique dans lequel l'efficacité prime, on se sert du mensonge. Ça, c'est net, Machiavel. Hein ? On se sert du mensonge. Un régime dans lequel l'efficacité prime, Platon. On se sert du mensonge. Une famille dans laquelle l'efficacité prime, on peut mentir. C'est très intéressant pour comprendre, vous voyez, c'est peut-être comme cela qu'on devrait comprendre aujourd'hui le point de vue du mensonge. Vous savez bien, au point de vue théologique, théologie morale, la question du mensonge est toujours une question très très difficile. Hein. Il y a deux grandes théories différentes, celle de saint Thomas et celle de Suarez. Hein. Alors, il faut bien remonter à la source ici et bien comprendre que, de fait, oui, la restriction mentale, Suarez, la restriction mentale, Madame est absente. restriction mentale. J'ai personne dans ma maison. On joue le camouflage. La restriction mentale, qui est une chose curieuse et très curieuse, c'est intéressant. Alors c'est intéressant de voir quand même comment Dieu nous met en face de ce que c'est que le mensonge. C'est ma sœur, car il craignait de dire c'est ma femme. La crainte, de peur que, se disait-il, les gens du lieu ne me tuent à cause de Rebecca, car elle était agréable à voir, encore plus que Sarah, sûrement. Rebecca était beaucoup, beaucoup mieux que Sarah. Il a regardé les photos de Sarah, les photos de Rebecca. Tout de suite, c'était une très grosse différence. Rebecca était bien mieux. Or, il était là depuis un assez long temps, lorsque Abimelech, roi des Philistins, regardant par la fenêtre, vit Isaac qui folâtrait avec Rebecca, sa femme. Alors, on retrouve la chose. Il y a un parallélisme, c'est évident, le parallélisme est très net. Il y a des petits détails différents. Alors, les petits détails, on peut très bien dire que c'est le rédacteur qui fait ça pour montrer que ce n'est pas la même chose. On sait très bien, quand il y a deux récits parallèles, on fait des petits changements, des petits rien du tout, pour montrer que ce n'est pas la même chose. On peut dire ça, c'est sûr, on peut dire ça. On peut dire aussi qu'il y a une volonté de l'Esprit Saint pour nous faire montrer comment, lentement, Dieu purifie le cœur de l'homme. Très important pour le noviciat. Laissez-moi encore 6 mois, je deviendrai un novice parfait. Laissez-moi, il faut le temps que la grâce pénètre ce vieux païen que je suis. C'est extraordinaire. Alors, on voit très très bien cette chose-là. Ça nous apprend, vous voyez, à plaider notre cause, ces choses-là. Parce que on voit comment la grâce met du temps. Abimelech appela Isaac et lui dit, à coup sûr c'est ta femme. Comment donc as-tu dit, c'est ma sœur? Isaac lui dit, c'est que je me disais, je risque de mourir à cause d'elle. C'est pas très beau, hein? On sonde le cœur d'Abraham, on sonde le cœur d'Isaac. C'est pour ça qu'il y a encore de la boue. Pourtant, ils sont des hommes merveilleux, ils sont des saints. Et ça ne pénètre pas jusqu'au bout. Abimelech dit, que nous es-tu fait ça? Pour un peu, quelqu'un du peuple coucherait avec ta femme et tu aurais fait venir sur nous une faute. Alors Abimelech donna cet ordre à tout le pays, quiconque touche à cet homme et à cette femme sera mis à mort. Alors vous voyez, c'est très intéressant parce que c'est quand même très différent. Il y a la protection d'Abimelech. Et là, on voit que, très nettement, à la différence d'Abraham, Isaac a manqué de confiance dans la protection de Dieu. D'une certaine manière, ça va plus loin. Abraham, c'était le bédouin. Isaac, quand même, là, a manqué de confiance. Parce qu'on voit très bien qu'Abimelech, tout de suite, donna cet ordre à tout le peuple. Quiconque touchera, c'est pas dit dans l'histoire de Sarah. Donc il y a un événement très nouveau pour saisir comment Isaac aurait dû être plus confiant. Isaac fit des semailles dans ce pays et cette année-là, il trouva le centuple. Il y a la bénédiction de Dieu. Et la bénédiction de Dieu sur la terre montre la bénédiction de Dieu sur Isaac, le centuple, la fécondité. Yahvé le bénit et l'homme devint grand, grandit de plus en plus jusqu'à devenir très grand. Il eut des troupeaux de petits bétail, des troupeaux de gros bétail et de nombreux serviteurs et les Philistins en devinrent jaloux. Ah, alors on retrouve la jalousie, toujours. La jalousie, elle est très très présente dans la Genèse. C'est pas étonnant. Dieu rééduque le cœur du Père. Alors forcément, l'ennemi de l'amour, c'est la jalousie. L'ennemi de l'amour fraternel, c'est la jalousie. Alors on l'avait vu dans Sarah. Ici, vous ne la voyez pas, vous la voyez d'une façon extrinsèque, c'est différent. Mais c'est très important, je crois, de comprendre ici que le sens de cette famine est quand même différent parce que Dieu avait averti. et avait dit de demeurer là, il aurait dû avoir cette confiance totale en Dieu. Mais voyez que Dieu pardonne. Hein. Il pardonne tout de suite, puisqu'il y a la fécondité du côté matériel qui est un signe. Tous les puits qu'avaient creusés les serviteurs de son père au jour d'Abraham, son père, les Philistins les avaient bouchés et remplis de terre. Ah ça, alors c'est toutes les histoires des puits. L'exégèse rabbinique est très sensible à la question des puits, les points d'eau, les oasis. C'est très important. C'est la seule manière de retrouver la fertilité. La spiritualité des puits, des points d'eau, des oasis. Créer des points d'eau, créer des oasis. Tant du point de vue matériel qu'au point de vue spirituel. Hein. La spiritualité de la communauté Saint-Jean, c'est de créer des points d'eau, c'est de créer des oasis. Hein? Retrouver des lieux où il y a un jaillissement d'amour. Au milieu d'un monde qui se matérialise, au milieu d'un monde qui ne croit plus à l'amour. C'est pour ça que c'est très important pour nous. Il y a quelque chose de très important à saisir là. Tous les puits qu'avaient creusés les serviteurs de son père, au jour d'Abraham, son père, les Philistins les avaient bouchés et remplis d'eau. Il y a une manière, voyez, de supprimer les points d'eau, de supprimer les puits qui empêchent la sécheresse. Les bouchés et remplis de la terre. Abimelech dit à Isaac, « Va-t'en d'ici, car tu es devenu beaucoup trop fort pour nous. » Tant que tu étais petit, ça allait. Mais maintenant, ça ne va plus. Tu es devenu beaucoup trop fort. La rivalité. La rivalité, la jalousie. Isaac s'en alla donc de là, campa dans la vallée de Gérar et y habita. Isaac creusa de nouveau les puits d'eau qu'avait creusés au jour d'Abraham, son père, et que les Philistins avaient bouchés après la mort d'Abraham. C'est la première œuvre d'efficacité d'Isaac. Retrouver les points d'eau, retrouver les sources, très très important pour nous. C'est cette manière dont on doit, quand on est en face d'un désert spirituel, la grande Thérèse disait ça, quand on est en face d'un désert spirituel, il faut creuser des points d'eau. Puis alors quand les points d'eau sont suffisamment proches, tout est inondé. Oui. Si on cherche le charisme de la communauté Saint-Jean, il est là. Il nous est montré ce charisme. Creuser des points d'eau, des petites communautés ferventes d'amour, de lumière, de charité, d'amour pour les prêtres, pour tous les fidèles, pour recréer ça. Isaac creusa de nouveau les puits d'eau qu'on avait creusés au jour d'Abraham, son père, et que les Philistins avaient bouchés après la mort d'Abraham. Il leur donna les mêmes noms que leur avait donné son père. La fidélité, là. Vous voyez, il est fidèle, on voit bien ce que c'est que ce fils. Les serviteurs d'Isaac creusèrent dans la vallée. Ils y trouvèrent un puits d'eau vive. Alors l'eau vive apparaît ici. Mais les bergers de Gérar cherchèrent querelle aux bergers d'Isaac. On avait déjà vu ça, ces querelles, hein, au temps d'Abraham, vous vous souvenez, n'est-ce pas? Et Abraham ne les voulait pas. Cherchèrent querelle aux bergers d'Isaac en disant, « L'eau est à nous. » Isaac appela le puits du nom de Essek, parce qu'ils s'étaient disputés avec lui. Ils creusèrent un autre puits, et on se querella encore à son sujet. Il l'appela du nom de Sitna. Étant parti de là, il creusa un autre puits, et on ne se querella pas à son sujet. Il l'appela du nom de Rehoboth. Car maintenant, dit-il, Yahvé nous a mis au large. et nous fructifierons dans le pays. Alors, ça, c'est curieux, hein ? Il y a là quelque chose de très intéressant. Comme c'est différent d'Abraham. La manière dont Dieu conduit Isaac, c'est pas du tout la même chose. Il est poursuivi par les Philistins parce qu'il devient trop gros, trop riche, tout réussit trop bien. Alors, Dieu veut qu'il ait la charité de quitter. Après avoir mis des puits, d'avoir rétabli des puits, il doit les laisser aux autres. Successivement comme ça, jusqu'au troisième. Donc, ça veut dire arriver à découvrir dans l'efficacité une certaine gratuité. Je crois qu'on peut dire ça. Et c'est l'éducation du cœur de l'Isaac. L'efficacité creuse et puis il veut trouver ça, ça c'est évident, il travaille. C'était les serviteurs d'Abraham, c'est souligné. Et alors, arrivé, il l'abandonne, il le laisse. Alors, est-ce que ce n'est pas pour essayer de découvrir à l'intérieur de l'efficacité cette gratuité ? On a confiance en Dieu. Il y a quelque chose de plus précieux que l'efficacité, c'est la bonne entente. Il ne s'agit pas de se quereller. On avait déjà trouvé ça dans Abraham, mais pas de la même façon. Alors, maintenir de bonnes relations de charité fraternelle, nous dirions. Quitte à être bonne poire. Ça va très loin, ça. Quitte à découvrir à l'intérieur de l'efficacité une gratuité. C'est nous qui l'avons fait, c'est sûr. Ça n'a pas d'importance. Vous le voulez ? Très bien. On ira après. On en causera un autre. Et alors à ce moment-là, hein, à ce moment-là, c'est ça qui est très beau. À ce moment-là, il l'appela du nom de Rehoboth, car maintenant, dit-il, Yahvé nous a mis au large et nous fructifierons dans le pays. De là, il monta à Beersabée. Yahvé lui apparut cette nuit-là et dit, « Je suis le Dieu d'Abraham, ton père. Ne crains pas, car je suis avec toi. » Ne crains pas. Toujours, ne crains pas. C'est avec le Père, il faut ça. Je suis avec toi. Et je te bénirai, multiplierai la descendance à cause d'Abraham, mon serviteur. Là, il bâtit un autel et invoqua le nom d'Yahvé. Là, il tendit sa tente. Et là, les serviteurs d'Isaac forèrent un puits. Donc, on voit de nouveau la bénédiction, de nouveau la présence, de nouveau la liturgie de l'autel. C'est une reprise, si vous voulez, de ce qui était dit précédemment pour essayer de découvrir la présence de Dieu.